Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias, je m'appelle Steven Jambot et on est ensemble pendant une vingtaine de minutes si vous nous écoutez à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast.
L'atelier des médias.
Cette semaine, nous allons nous pencher sur l'affaire de la Ligue du LOL qui secoue les médias français depuis le début du mois de février. La Ligue du LOL, c'était un groupe Facebook secret dont certains membres, journalistes ou communicants français, ont pratiqué pendant des années du harcèlement en ligne, notamment contre des femmes. Avec Daniel Schneiderman, du site Arrêt sur Image et Léa Lejeune, journaliste et présidente du collectif Prenons la Une, on va s'interroger sur les causes et les conséquences de cette affaire qui fait grand bruit dans le microcosme médiatique français et au-delà.
RFI.
Bonjour Daniel Schneiderman.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur et rédacteur en chef d'arrêtsurimage.net, un site français de critique des médias, et vous écrivez aussi des chroniques médiatiques dans Libération, c'est bien cela ?
Oui.
Alors votre site s'attache, je cite, à déconstruire tous les récits médiatiques, aussi bien télévisés, écrits que sur les réseaux sociaux. Cette affaire de la Ligue du LOL, qui occupe beaucoup les médias français depuis le début du mois de février, est-elle inédite ? Et comment la traitez-vous sur votre site d'information ?
Alors je ne sais pas si elle est inédite, je pense que oui, en tout cas elle est très surprenante. Moi, j'avais vu évoluer à l'époque la plupart des journalistes qui sont aujourd'hui mis en cause dans l'affaire. J'avais bien perçu que d'abord, ils étaient très brillants sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. C'était pour beaucoup des bons journalistes. Alors j'avais bien vu l'insolence, le côté de la dérision systématique, si vous voulez, tout ce qu'on appelait à l'époque le « lol ». Mais alors l'arrière-boutique m'avait totalement échappé, le côté, la manière dont étaient harcelés des confrères, des consoeurs, surtout des consoeurs d'ailleurs, de manière tellement sauvage, tellement dure, tellement harcelante. Tout ça m'avait échappé, donc on a été surpris. Après, comment on suit ça ? Alors on a fait une première émission la semaine dernière sur le site d'Arrêt sur Image, en essayant de voir si entre l'affaire des Gilets jaunes et l'affaire de la Ligue du LOL, il n'y avait pas un point commun qui était finalement la tentative de disqualification par une catégorie dominante de l'émergence de la parole d'une autre catégorie, d'une catégorie dominée, on va dire, sur les médias. On avait sur le plateau notamment Nassira El-Mouadem, qui, alors l'ancienne directrice du Bondi Blog, voilà, qui, elle, n'a pas été harcelée par la Ligue du LOL, mais a subi du harcèlement à l'école de journalistes où elle se trouvait à l'époque. Voilà. Et là, aujourd'hui, on est dans la préparation de notre émission de la semaine, donc on va tourner demain...
Vendredi, donc.
Demain, vendredi, voilà. Sur le thème, finalement, qu'est-ce qui fait que des pratiques qui apparaissaient tout à fait acceptables et qui étaient même plutôt valorisées il y a une dizaine d'années par la plupart des journalistes apparaissent aujourd'hui comme difficilement supportables. Je veux dire, comment se fait-il que ce qu'on appelait avec complaisance et sympathie troll à l'époque, aujourd'hui ça s'appelle du harcèlement ou ça s'appellerait du harcèlement. Vous voyez, je pense que vous seriez venu m'interviewer il y a 10 ans. On aurait fait, vous m'auriez demandé ce que je pensais du LOL et du troll. On aurait fait tous les deux une interview très sympathique en trouvant que c'était sans doute très rafraîchissant. Voilà, comme quoi les mentalités changent, les contextes changent.
En avez-vous été victime d'ailleurs à l'époque, vous qui êtes arrivé sur Twitter en 2009?
Non, je peux pas dire franchement que je vais pas passer pour une victime de harcèlement. J'ai fait une première tentative sur Twitter en 2009 et pour être honnête, c'est vrai, j'avais bien senti que l'ambiance n'était pas propice à des dialogues argumentés, relativement sérieux, avec une tentative d'être relativement sérieux et qu'on avait vite fait de se faire bâcher. Et donc j'y suis pas resté. Je suis pas resté sur Twitter parce que je me suis dit c'est pas pour moi le bâchage systématique et un peu puéril de cours de récré comme ça, c'est pas mon mode d'expression privilégié.
C'est un processus que les nouveaux utilisateurs de Twitter ont régulièrement, à savoir ils s'inscrivent puis ils délaissent un petit peu l'outil avant parfois d'y revenir.
Bah peut-être dans ce cas-là je vous m'apprenez avec j'apprends avec satisfaction.
En tout cas, ça a été mon parcours à moi aussi.
Ah bah voilà, on est deux alors.
Moi qui suis arrivé en 2007.
On est deux. Bon, parce que moi, j'ai le, comment dire, la faiblesse d'essayer d'argumenter quand je dis quelque chose. Ça prend du temps parfois, c'est long. Ça donne des grands articles, parfois trop longs, des gros livres, parfois trop gros. Bon, enfin, c'est comme ça.
On va enchaîner peut-être sur la gestion de l'affaire par les médias en question, les médias où travaillent certains des membres de la Ligue du LOL. Ils ont réagi rapidement. Plusieurs journalistes ont été suspendus, certains pourraient même être licenciés. Est-ce que c'est une bonne chose? Vous avez notamment écrit que la presse doit nettoyer dans ses propres écuries.
Attendez. Nettoyer dans ses propres écuries, ça ne veut pas dire virer ou licencier. Moi, je ne suis pas directeur de médias aux prises avec ces affaires-là. Je ne suis pas non plus conseiller prud'homme, donc ce n'est pas à moi de dire ça. Nettoyer dans ses propres écuries, dans mon esprit, ça veut dire faire toute la lumière. C'est-à-dire raconter dans ses propres colonnes les faits qu'ont pu commettre des journalistes impliqués dans l'affaire. À ce titre, d'ailleurs, ce qu'a fait Libé, par exemple, je trouve ça tout à fait exemplaire, parce que la manière dont section de Libé, la Check News, qui est la section de vérification des informations à la demande des internautes, qui a sorti l'affaire, si vous voulez, c'est quand même sans précédent, je crois. Qu'un journal sorte une affaire qui met en cause deux de ses collaborateurs, avec les conséquences qu'on a vues, c'est sans précédent. Non, je pense que tous les médias dans lesquels travaillent des gens qui sont impliqués devraient faire la même chose. Devraient raconter ce qui s'est passé. Je veux dire, ne serait-ce que pour maintenir le pacte de confiance avec les internautes, avec les lecteurs. Libé l'a fait. Les Inrocks l'ont fait relativement. Bon, il y a d'autres médias qui ont été plus allusifs. Par exemple, Télérama, où travaille quelqu'un qui est aussi un ancien membre de la Ligue du LOL, Olivier Tesquet, a juste publié un petit encadré expliquant qu'il avait été reçu par ses chefs et que les chefs avaient considéré qu'il n'y avait rien à lui reprocher. Et un autre média... où travaille quelqu'un d'impliqué, qui est Slate, où travaille
Christophe Caron.
Christophe Caron, qui est son rédacteur en chef, a fait la même chose, c'est-à-dire un petit mot de la direction, expliquant qu'il n'y avait rien à reprocher à Caron. Alors après, c'est peut-être vrai qu'il n'y a rien à leur reprocher, mais c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant de voir un média dire, voilà, alors, on a fait le ménage en interne, on s'est assuré que tout était clean. Voilà, ils auraient peut-être pu faire un petit peu plus.
Daniel Schneiderman, y aura-t-il un avant et un après Ligue du LOL dans les médias français?
Ça, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un avant et un après MeToo. Et ce qui est sûr, c'est que là, avec la Ligue du LOL, on est vraiment dans l'après MeToo. Ça, c'est clair. On se situe. Alors, après, vous savez, j'ai vu quand même beaucoup de tremblements de terre absolument épouvantables sur le moment et totalement oubliés le lendemain ou le surlendemain. Donc, je peux pas vous dire ce qui se passera. Mais on est de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'on est dans un processus d'après MeToo. Je veux dire, sans MeToo, je pense pas que la Ligue du LOL serait revenue à la surface. Par définition, personnellement, je suis favorable de la plus grande transparence possible. Par définition, si vous voulez, c'est l'axiome de base, c'est que les médias qui sont là pour exiger la transparence de tous les autres pouvoirs, le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir culturel, par définition, ils devraient être le plus transparent possible. Je dis pas totalement transparent parce que ça, c'est jamais possible. Je l'ai cru il y a 10 ans, maintenant je suis un peu revenu dessus. Mais en tout cas, le plus transparent possible, donc s'il y a encore des collectivités de travail dans lesquelles se pratique le harcèlement ou l'agression sous quelque forme que ce soit, c'est je suis tout à fait pour que ça remonte à la surface.
Et pour revenir sur le LOL, vous vous posiez la question, faut-il déloliser l'information? Vous êtes questionné sur cette question et vous avez une réponse, j'imagine.
Bah, écoutez, moi, alors, comment dire, j'aime bien manier l'humour, personnellement. Enfin, je le fais avec plus ou moins de bonheur, c'est plus ou moins drôle, ça fait plus ou moins rire. Mais je pense que pour un journaliste, si vous voulez, manier l'humour, c'est un moyen d'expression tout à fait légitime. On n'est pas condamné à faire sérieux, on n'est pas condamné à faire chiant. Et en plus, si vous voulez, je pense personnellement que l'humour, est une manière d'atteindre le cœur des lecteurs, de les convaincre. Parfois beaucoup plus efficacement qu'un papier extrêmement sérieux, je veux dire, une caricature, un sketch, peuvent être des moyens de faire passer des messages tout à fait sérieux et de les faire passer très efficacement. Alors, quelle est la différence entre l'humour et le LOL? Peut-être que, effectivement, personnellement, je ne considère pas que tout est par définition lolisable. Dans mes chroniques, par exemple, quand je cherche personnellement à parler d'un sujet, je me demande pas d'abord comment je vais faire marrer avec ce sujet. Et je me demande, la première question que je me pose, c'est comment je vais arriver à le rendre intéressant pour mes lecteurs. Si dans le cheminement ou dans l'enquête, apparaissent des éléments qui m'apparaissent comiques ou rigolos, alors j'y vais, on y va. Parce qu'il n'y a pas de raison de s'en priver, je veux dire, il n'y a pas de raison de se priver de traiter certains sujets par la dérision, je veux dire, c'est tout à fait. Mais personnellement, hein, c'est ma pratique à moi. Je considère que la volonté de trouver le dérisoire ne doit pas être première. Voilà. En tout cas, chez moi, elle est rarement première. Ce qui est premier, c'est dans ma démarche journalistique personnelle, si vous voulez, c'est une curiosité, j'ai envie de savoir, simplement, basiquement, ou alors c'est une indignation, ou alors c'est une n'importe quoi. Mais c'est rarement l'envie de faire rire, en premier.
Et surtout, et si envie de faire rire il y a, ça doit être communicatif, inclusif, et pas une blague potache qui va faire rire trois copains, c'est ça ?
Oui, oui, parce qu'on a un public. Je veux dire,
on écrit pour être lu et on écrit pour un public.
Et on fait de la radio pour être écouté. Je pense que vous ne faites pas cette émission là en ce moment pour vos trois potes. Donc j'espère que, je suis sûr d'ailleurs que RFI a une audience qui dépasse de beaucoup le cercle de vos amis, même si vous avez beaucoup d'amis. Donc voilà. Alors ça c'est c'est un réflexe journalistique de base, si vous voulez. C'est que effectivement, oui, voilà, tout message doit être inclusif, comme vous dites, c'est-à-dire compréhensible par le plus grand nombre possible. Ça c'est quand même la base du boulot.
Et notamment, si vous regardez le traitement de cette affaire de la Ligue du LOL par les médias français, la presse française fait-elle bien son boulot dans cette histoire ?
Non, mais la presse française en général, j'en sais rien. Je vous ai dit que le papier de Libé au début était très bien. Il y a eu des enquêtes tout à fait approfondies notamment sur les Inroc et sur le
Mediapart.
Donc tout ça, c'est on enquête, c'est très bien. Alors, le danger, je vais peut-être vous surprendre, mais le danger, c'est peut-être l'emballement. C'est peut-être qu'on en fasse trop. C'est peut-être, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde n'évite pas totalement ce danger-là, c'est peut-être qu'aujourd'hui qu'on vous ressorte ce tweet de deux lignes, en vous disant « mais regarde ce tweet, cette horreur !» Bon, alors que sans doute ce tweet s'inscrivait-il dans ce qu'on appelle un tweet clash, c'est-à-dire qu'il y avait affrontement lolesque entre deux personnes, trois personnes, quatre personnes, et que le contexte, si vous voulez, peut aider à comprendre un tweet qui, isolément, peut être effectivement choquant et scandaleux, si vous voulez. Tous les médias ont foncé dans cette histoire de Ligue du LOL, mais le danger, c'est celui-là. Vous savez, moi, j'ai écrit un livre, il y a bien longtemps déjà, sur l'emballement médiatique. Ça s'appelait le cauchemar médiatique. Et ce sont ces moments, si vous voulez, où tout d'un coup, tout le monde, tous les journalistes, démarrent dans le même sujet, les médias traditionnels, les réseaux sociaux, tout le monde, les politiques, les éditorialistes, tout le monde démarre sur le même sujet. Bon, on n'est pas loin d'un emballement Ligue du LOL.
Les premiers concernés doivent faire leur introspection. Ils la font, j'imagine, pour certains depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais vous parliez de l'emballement médiatique. Les médias français doivent-ils aussi, parfois, laver leur linge sale en public ?
Je vous ai dit, oui. Ouais. Non, mais d'abord, je n'aime pas beaucoup cette expression de laver son linge sale. Il ne s'agit pas de laver son linge sale, il s'agit d'enquêter sur soi-même. Il s'agit d'enquêter sur soi-même, comme on enquêterait sur, encore une fois, un parti politique, un mouvement, une association. Surtout à une période où, on l'a bien vu avec les Gilets jaunes, on l'avait vu avant, hein, mais on l'a bien vu avec les Gilets jaunes, il y a quand même ce qu'on peut appeler une espèce de grave crise de confiance envers les médias. Hein, il y a un problème. On peut dire qu'on est vraiment dans un problème. Je crois que il n'y a pas 40 manières de regagner la confiance. La meilleure et la plus simple manière de regagner la confiance, c'est d'être le plus transparent possible sur son fonctionnement.
Merci Daniel Schneiderman.
Merci à vous.
atelier@rfi.fr
Depuis plusieurs semaines, les victimes de la Ligue du LOL s'expriment. Certaines racontent que le harcèlement qu'elles ont subi a été un frein à leur évolution professionnelle. Parmi elles, Léa Lejeune, que Camille Sarrazin a rencontrée pour l'atelier des médias.
Je m'appelle Léa Lejeune, je suis journaliste économique et présidente de Prenons la Une.
Tu as écrit un papier dans Slate où tu expliques les conséquences que ce harcèlement a eu pour toi et surtout sur ta carrière. Alors, de quelle manière ça a influé sur ta carrière ?
Le truc, c'est qu'au moment où les raids de cyberharcèlement se produisent, on tremble, on rougit, on ne sait pas comment réagir, on n'arrive plus à se concentrer sur son travail, on essaye de leur répondre, on perd du temps. Et en fait, ça influe sur la concentration et la qualité du travail pendant une durée courte. Et ensuite, l'autre chose, c'est que moi, ils avaient fait une page de référencement qui était censée parler de mon travail et qui, en fait, parlait surtout de mon physique, me conseillait de faire du porno plutôt que du journalisme. Et cette page-là, elle a eu une influence sur ma carrière puisqu'elle est restée en ligne sur Google, très facilement accessible pendant des années. Et donc, à chaque fois que j'avais un rendez-vous avec quelqu'un, il y avait la possibilité que cette personne tombe dessus.
On voit que c'est un groupe d'hommes qui harcelaient, mais il y avait aussi surtout beaucoup d'insultes dirigées vers les femmes, sexistes, racistes, homophobes. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça a aussi permis la libération de la parole au sein du milieu du journalisme. Et donc, avec Nous Toutes et Prenons la Une, dont tu fais partie, vous avez lancé un grand sondage. Est-ce que tu peux nous en parler et pourquoi vous avez senti le besoin de faire ça ?
En fait, on s'est dit que ça allait plus loin que la Ligue du LOL. Et ce sondage nous permet de soulever ces autres problèmes. Par exemple, la Ligue du LOL, c'était un genre de boys club, c'est-à-dire un groupe d'hommes qui s'entraident pour avoir des postes, pour être promus, pour promouvoir leurs articles sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui existe beaucoup dans la presse. Ça permettait aussi donc de la cooptation des uns des autres. C'est vrai que dans les médias, il y a très peu d'offres d'emploi qui sont postées publiquement, mais c'est beaucoup au bouche à oreille qu'on apprend qu'il y a un poste ici ou là, et ça c'est des choses à mon avis que l'on peut travailler.
Justement, pour revenir vraiment sur le cyberharcèlement, avec Prenons la Une, vous aviez déjà publié une tribune en mai, donc sans citer la Ligue du LOL, mais où vous dénonciez justement ce cyberharcèlement qui touchait les femmes, et vous aviez déjà des préconisations contre le cyberharcèlement. Quelles sont-elles ?
Je pense que la première chose, c'est que au sein des rédactions, il faut interdire ce genre de comportement, c'est-à-dire le cyberharcèlement ciblé, voire le cyberharcèlement sur des communautés, comme ça a été pratiqué par certains des membres de la Ligue du LOL, donc communautés femmes, LGBT et personnes racisées. L'autre chose qu'on suggère, c'est que ce soit pris au sérieux par les rédactions, le cyberharcèlement, avec l'idée que ce soit un peu reconnu comme un accident du travail. Alors, on ne sait pas comment ça peut être fait exactement juridiquement, mais l'idée, c'est qu'on permette à la personne qui subit ça de prendre son après-midi, de prendre du recul sur ce qui est en train de se passer, que peut-être ce soit un collègue qui s'occupe de ses réseaux sociaux pendant ce temps-là, qu'on l'aide à relativiser, à se rendre compte que finalement, c'est pas si grave. Tout un mode d'accompagnement et d'aide et de compréhension par les collègues et les chefs de service.
Parce que là, pour le moment, c'est ce que les victimes à l'époque n'ont pas reçu. C'était aussi un soutien de leur rédaction et c'est des hommes qui se sont maintenus à des postes à responsabilité.
À l'époque, les victimes n'ont pas trop reçu de soutien, c'est vrai, notamment parce que beaucoup des victimes étaient en situation de précarité, soit à la pige, soit en CDD. Et c'est vrai que c'est plus difficile de faire remonter à la direction ce genre de problème. Le réflexe, ça peut être simplement « non mais je vais pas faire de vagues, je vais garder tout ça pour moi, et puis ça va passer ». Ou au contraire, on fait remonter, mais à l'époque, c'était pas compris ce genre de problème. Et puis aussi, il faut pas oublier que avant 2017, il n'y avait pas de loi contre le cyberharcèlement en France.
Tu as aussi beaucoup parlé dans les médias anglophones et tu as interpellé le patron de Twitter sur ce cas-là. Qu'est-ce que tu attends de lui ?
J'ai pensé aussi à interpeller à titre personnel le patron de Twitter, Jack Dorsey, sur les réseaux sociaux, parce que récemment j'ai travaillé sur un article sur lui et je voyais qu'il répondait beaucoup aux internautes. Et je pense que Twitter n'a pas encore pris la mesure de ce qu'il fallait faire pour agir contre le harcèlement ciblé ou contre le harcèlement des minorités. Et je pense que voilà, le fait qu'on puisse signaler des comptes, ça suffit pas ou c'est pas assez rapide. Et finalement, tout ce qui peut avoir l'air d'être de l'humour et qui ne comporte pas des insultes directes n'est pas forcément traité par la plateforme. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire.
Là, on voit que les harceleurs de la Ligue du LOL, beaucoup ont été mis à pied ou renvoyés. Ça, c'est les conséquences là, maintenant, à court terme. À long terme, comment on peut faire pour qu'il y ait plus d'égalité dans les rédactions, en fait ?
Alors déjà, une première chose, la plupart d'entre eux ont été suspendus à titre provisoire. Il y a des enquêtes internes qui sont menées aujourd'hui. En fait, beaucoup d'entre eux ont été suspendus, mais à titre provisoire. Il y a des commissions d'enquête qui ont été ouvertes dans plusieurs rédactions. C'est une première étape, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être licenciés tous. Ça dépendra des faits, ça dépendra des faits qui ne sont pas prescrits. Il faut laisser le droit du travail faire cette partie. Mais il faut faire plus que ça. La première chose, c'est qu'il faut sensibiliser toutes les rédactions à ce qui se passe aujourd'hui, notamment les directions, pour les faire progresser, pour leur faire prendre conscience qu'il peut exister des discriminations en leur sein, même si elles ont l'impression de bien faire. Il faut faciliter aussi les recrutements des personnes de la diversité. Voilà, en fait, il faut que finalement la presse soit beaucoup plus à l'image de la France telle qu'elle est, et ça permettra de aussi renforcer la sensibilité et donc véhiculer d'autres valeurs au sein des médias eux-mêmes.
Et avec Prenons la Une, ça fait quand même longtemps que vous vous battez pour ça. Là, ça a été le déclencheur. Vous avez l'impression d'être plus entendu maintenant grâce à cette affaire ?
Avec Prenons la Une, maintenant, ça fait 4 ans qu'on se bagarre. On s'était lancé dans une tribune dans Libération en 2014. Il y a eu un premier déclic l'an dernier, après MeToo. Donc, c'est vrai que plusieurs médias nous ont appelés, interpellés, etc. Et là, avec ce qui vient se passer, il y a effectivement un regain d'intérêt pour notre message. Et du coup, on se rend disponible au maximum pour le véhiculer, parce qu'on espère vraiment qu'on sera plus entendu, oui.
Vous venez d'entendre Léa Lejeune, journaliste et présidente de Prenons la Une. Pour participer à l'enquête sur le sexisme dans les rédactions lancée par ce collectif, rendez-vous sur entendualarédac.fr et avec le mot-clé « Entendu à la rédac » sur les réseaux sociaux. C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Mondoblog Audio qui nous emmène cette semaine à Abidjan. Sur son blog L'Autre Regard, Stéphane Tano Anini s'est intéressé au harcèlement sur les réseaux sociaux. Il nous dit combien les moqueries répétées sur nos comptes personnels peuvent faire mal au point d'anéantir toute estime de soi.
Aujourd'hui, toute exposition sur les réseaux sociaux fait que l'on peut se prendre une baffe amplifiée en plein visage par des individus en quête de buzz. Il est loin derrière nous le temps où chacun pouvait s'offrir le loisir d'exprimer ses idées sans se soucier d'une quelconque critique. Oui, les réseaux sociaux ont tout changé. Les internautes ont découvert avec ces outils un pouvoir extraordinaire qui leur était jusqu'ici inaccessible. La possibilité de tout commenter et de donner son avis à n'importe qui. Qu'importe si les internautes sont de parfaits inconnus, la force du nombre leur donne un sentiment de toute puissance. Lorsqu'ils engagent une discussion, ce n'est pas vraiment pour laisser éclater la raison, mais plutôt pour imposer leur raison. Comme il fallait s'y attendre, l'effet pervers des réseaux sociaux n'a pas tardé à pointer son nez. Aujourd'hui, il paraît normal de s'immiscer dans une discussion que l'on soit concerné ou pas. Et quand l'émotion dépasse la raison, la quête d'un mauvais buzz ne se fait pas attendre. La victime qui subit le courroux des internautes sera la visée de toutes leurs actions. Le mot d'ordre, taper là où ça fait mal, aussi fort que possible. On rit, on se moque, et même on humilie. La raillerie et l'ironie deviennent alors des armes de destruction massive. Rien n'est grave parce que tout est tourné en dérision. Et sur ce point, les internautes ne manquent pas de créativité. Parfois, le bouchon est poussé un peu trop loin et c'est comme un seau d'essence que l'on verse sur le feu. On en vient à oublier que derrière chaque écran, ce sont des êtres humains avec leur sensibilité et leur fierté qui sont ainsi piétinés. Pour la victime au milieu du scandale, l'incompréhension et les larmes viendront à coup sûr quand elle verra sa réputation réduite à néant. Se moquer à répétition pour voir l'autre souffrir, ça s'appelle du harcèlement. Sur les réseaux sociaux, c'est de la domination 2.0.
Retrouvez le billet « Réseaux sociaux, grande gueule et mouroir populaire » de Stéphane Tano Anini sur son blog « L'autre regard » et rendez-vous sur mondoblog.org pour réécouter tous les Mondoblog audio diffusés à ce jour. C'est la fin de cette émission que vous pouvez entendre en version longue sur notre podcast. Elle a été préparée avec Camille Sarrazin et Camille Deloche, à la réalisation Simon de Creuse, au micro Steven Jambeau. La semaine prochaine, nous vous proposons une rediffusion de notre émission consacrée au projet Globe Reporters, où quand des élèves sont rédacteurs en chef d'un journaliste en reportage. D'ici là, et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner au podcast de l'Atelier des médias.